en tant que parent ou professionnel, allez-y, oui. Parce qu'on a fait un débat à Marseille, on a fait un peu la même séance, sauf que ce n'était pas avec Bernadette de Gasquet. Et il y avait beaucoup de sages-femmes dans la salle. La salle était comble, c'était énormément de professionnels. Et il y a des parents qui ont témoigné, il y a eu un ou deux témoignages qui avaient eu des expériences relativement négatives. Je ne dis pas des accouchements catastrophiques, mais enfin des expériences de manque d'écoute et tout ça, et les sages-femmes ont réagi. Il y a des sages-femmes qui ont réagi en disant on se sent agressé parce qu'on essaie de faire notre travail le plus sérieusement possible, on n'est pas des monstres, etc. Enfin, elles se sentaient très agressées. C'est souvent ces situations-là qui sont ressorties avec le personnel médical. Bon, après, moi, j'ai repris un peu les choses en main en disant, vous savez, il y a plusieurs vérités dans un accouchement. Il y a la vérité de ce qui est vécu par la mère, les parents, disons. Il y a la vérité de ce qui est vécu par les soignants. Et puis, il y a les vérités scientifiques aussi, les références que nous donnons au niveau scientifique. Et ces trois-là, souvent, ne se superposent pas. C'est-à-dire que les soignants ne font pas forcément ce qui est suggéré par les études scientifiques, parce que ça ne vient pas tout de suite dans les pratiques. Les parents ont tendance à protester souvent, certains parents, parce qu'ils diront on n'a pas assez de liberté. Quoi. C'est un peu comme l'histoire de la sécurité, puisqu'on est dans la sécurité dans les banlieues. Vous interrogez les jeunes, ils diront ah ben nous... on n'est pas en sécurité parce qu'il y a trop de flics, on se sent comprimé, on ne peut pas respirer, tout ça, donc ça crée de la violence. Et puis les gens, ben, de l'autre côté, les braves gens, comme on dit, entre guillemets, disent « Ah ben oui, pour avoir une sécurité, il faudrait mettre plus de flics, il faudrait restreindre les libertés. » Donc les deux discours vont être opposés. Et puis après, il y a les scientifiques, les criminologues et autres qui disent « Ah oui, d'après nos théories, dans telles conditions, on aura tel résultat, mais les criminologues, enfin ces scientifiques n'ont pas de solution. » pour un problème particulier d'une banlieue particulière ou d'une personne particulière. Donc ça ne servira pas. Donc ces trois vérités sont là, elles sont justes d'un certain niveau, mais il faut arriver après à les faire communiquer, parce que ça ne sert à rien de camper chacun sur ses positions. Quoi. Donc en tant que soignant, vous avez certainement été confronté à des parents qui venaient avec des exigences apparemment insurmontables, enfin impossibles. Et comment vous avez réagi à ça et comment vous avez essayé de résoudre ce genre de conflit, vous voyez? Oui, non, moi, madame.
Quand on se lance, je veux dire, c'est pas du tout la même sur le côté ou à quatre pattes.
Oui.
Le même sur le dos. Donc c'est sûr que les premiers qu'on fait, c'est de surprendre.
Oui.
Et je veux dire, dans quelle mesure, si on a fait une équipe, parce que je suppose que ça doit pouvoir arriver, d'abord, ça doit refroidir, c'est les premiers qu'on fait, c'est une certaine chose. Et d'autre part, dans quelle mesure, on peut avoir reproché après.
Bien sûr. Oui.
C'est par rapport à ça, c'est plus de l'appréhension que.
Oui.
Mais je veux dire, c'est pas de la mauvaise volonté, de l'appréhension et la peur de. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes repères.
Oui, c'est
les
ça.
Les premières fois, moi, quand je suis passée avec la pratique, après, ça y est, des problèmes. Mais les premières fois, c'est quand même.
Oui. Mais après, il s'agit aussi de mettre en avant l'information aux patients, au niveau de la préparation, de mettre en avant que les positions différentes sont possibles, que c'est pas forcément le savoir des professionnels de santé, mais c'est à la femme de se centrer sur son ressenti du moment, parce que effectivement elle peut avoir vu les posters d'accouchement, elle peut avoir fait une prépa d'accouchement où elle a vu tout un panel de possibles, mais sur le moment M où elle va elle accoucher, ça sera peut-être pas du tout ce qui est présenté sur le poster, ça sera sa position à elle en particulier. Donc si c'est préalablement expliqué au niveau du contrat de soins, c'est clarifié et il n'y a pas à avoir peur d'un retour de bâton, puisque de toute façon c'est clarifié à la base. D'où l'importance du projet de naissance. Mais il ne faut pas non plus penser que ben, on va se prémunir en laissant la femme sur le dos et qu'il n'y aura pas du tout de problème. Donc ça, c'est à expliquer aux patients aussi. C'est à mettre en avant, à discuter avec lui. Alors après, c'est une question de temps aussi. C'est beaucoup de choses, effectivement.
Alors là, justement...
Je pense que c'est plus compliqué que ça. Pardon?
Oui.
Ah, non, je pense que c'est plus compliqué que de l'exposer parce que tout de même, si on dit à une patiente qu'elle risque d'avoir une déchirure qui est compliquée, je vais ruiner parce qu'on va mal le surveiller. Je vois mal.
Cette
petite dame, d'abord, elle ne va pas très bien.
Et pourquoi elle aurait une déchirure compliquée?
Je comprends. Non, on va pas dire. Voilà. Mais on ne peut pas mettre un contrat comme ça sur la table.
Non. Ah non, mais oui. Mais pourquoi lui? Oui.
C'est pas possible. Donc, mais le point de la sage-femme, c'est pour surveiller son périnée. La patiente ne peut pas être informée qu'elle risque d'avoir.
Oui, mais elle peut l'avoir dans n'importe quelle position. Et,
de toute façon. Dans notre enseignement,
Oui,
oui, mais par contre, les épidios, oui.
Ah ben, les épidios, oui.
Ce ben là, il y a coupure, il y a coupure,
elle,
sûre.
Elle est informée, là, là-dedans, qu'il y a une épidio.
Oui, oui, donc, oui, statistiquement.
La plus grosse complication, c'est en présence des
clitoris. Un micro, Valérie.
Oui, ça, on a 100, ouais, on a 108 études qui le prouvent, quoi. Enfin, il n'y a aucune étude qui va dans l'autre sens, quoi. Et en Suède, par exemple, on a 6% d'épisio, on a des périnées. J'ai les statistiques d'ailleurs sous les yeux là, hein. Les comparaisons entre la Suède et la Hollande, parce que la Hollande, c'est quand même pas le paradis non plus, hein. En Suède, vous avez 6%, ben, une étude de Rockner à très grande échelle, justement. 6,6% d'épisio pour les nullipares et 1% pour les multipares, donc on est très loin des chiffres français. On aboutit à des déchirures sévères de 2,3% chez les nullipares et 0,6% chez les multipares. Et dans une étude hollandaise à grande échelle, on a 34% d'épisio en moyenne, multipares tout le monde réuni. On a 2,7% de déchirures sévères pour les nullipares, alors que 2,3% en Suède, donc un tout petit peu moins. Et pour les multipares, on a 1,3%, alors qu'en Suède, c'est 0,6%. Donc, il y a une amélioration, en fait, des conditions périnéales avec un taux d'épisio qui a considérablement baissé. Alors après, nous, on n'est pas... Là où je dis on n'est pas intégriste, on ne va pas dire qu'il faut aller à moins de 6%. Peut-être on peut aller à moins de 6% avec certaines pratiques, etc. On ne va pas discuter dans le cas d'un accouchement justement instrumentalisé. Ça, c'est des questions de spécialistes et de techniciens. Est-ce qu'il faut, sur les forceps, est-ce qu'il faut faire une épisio, etc. Bon, ça, ce n'est pas notre domaine. Mais on dit, au-delà des 6% ou même de 13% qui est la moyenne anglaise, on dit, là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a des soi-disant épisio préventifs qui n'ont pas été préventifs. Et là, il y a un problème de formation par rapport à... Il y a un retard par rapport à... aux progrès qui ont été faits en Angleterre et en Suède à ce niveau-là. Quoi.
Moi, je pense que ouais. Le travail d'une sage-femme en salle d'accouchement n'est pas facile du tout parce qu'il y a une femme qui arrive qu'elle ne connaît pas. Et je pense que si l'information passe par la préparation à la naissance et que cette femme arrive avec un projet de naissance, déjà pour la sage-femme, les liens vont se faire plus vite. Et la sage-femme va voir ce que cette personne a fait à l'époque. Je recevrai dans la
chambre de la
personne.
Oui. Non, ça se fait avant.
Oui, il a peut-être pensé avant.
Il est arrivé avant ce projet.
Quatrième mois.
On parle là en général, mais il y a quand même des équipes médicales, comme le souligne Valérie, qui attendent que les parents soient demandeurs de quelque chose avec un projet. Bon, évidemment, un projet, c'est pas une photo, ça sera comme ça, pile poil, mais au moins des envies, voilà, des envies de quelque chose.
C'est ça.
Mais là, vous soulignez quand même une histoire très particulière. C'est un peu le défaut d'Internet. On y trouve tout, on capte tout, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je travaille tous les jours sur Internet, j'adore. Je suis en contact avec des tonnes de gens, même au niveau mondial, c'est extraordinaire. Mais au niveau du projet de naissance, pour avoir creusé le sujet au niveau juridique et connaître aussi la partie médicale, justement, de personnes qui sont très réticentes parce qu'elles ont énormément de peur, que je ne veux pas développer là, c'est assez long. Mais le projet de naissance, ça ne peut pas se copier sur Internet, s'envoyer par poste et en plus, par-dessus le marché, demander au gynéco de signer. Enfin, moi, j'ai vu des trucs complètement hallucinants. Un projet de naissance, ce n'est pas le projet de naissance de la dame qui est à côté. On ne peut pas parler du projet de naissance en général. Un projet, justement, c'est un projet. Donc, par définition, c'est individuel, c'est tout à fait personnel. Et ça se travaille au fil des mois. Moi, mon... Pardon ? Parce que pour plusieurs raisons... Qui veut répondre ? Nelly. Oui. Au moment où la dame accouche, elle n'est pas dans la négociation. Elle ne l'est plus dans la négociation. Vas-y.
On n'est pas là pour étaler des situations personnelles, mais personnellement, j'ai établi un projet de naissance. D'accord. Je l'ai mis sur le papier. La sage-femme qui m'a préparé m'a demandé, en fait, tout simplement, d'écrire mes envies et mes peurs à moi. C'est tout. Je suis sage-femme. Et elle ne m'a rien rajouté. Elle n'a pas dit, mais tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, etc. D'accord ? Et je suis arrivée avec ce projet de naissance, voir ma collègue qui allait m'accoucher, et je lui dis, voilà comment j'aimerais accoucher. Est-ce que c'est OK pour toi ? Oui, non. Elle m'a dit, oui, tout à fait. On va essayer. Tu t'allais dans ton projet. Après, il se passe ce qui se passe. Ça colle avec le projet ou ça ne colle pas, mais ça, c'est comme ça. Et donc la structure était formée à ça, à l'accueil des femmes qui avaient des projets. Et le papier, c'est capital, parce que sinon, verbalement, vous pouvez oublier des choses. Et la transmission peut être déformée. Et ce que vous, vous souhaitez personnellement, au final, peut ne pas correspondre, à ce que vous souhaitez vraiment. Donc pour éviter toute transformation, vous venez écrire. Et la sage-femme qui vous emprunt à écrire votre projet ne doit pas transformer vos souhaits.
Oui, Joël.
Je pense aussi qu'il y a des femmes, certainement par défaut de préparation, qui, comme disait Bruno, trouvent des choses sur Internet. On leur a décidé bien de faire un projet, elles le font, sans trop savoir que peut-être la situation fera qu'on ne pourra pas y coller. Mais comme ça n'aura pas collé à ce qu'elles avaient écrit, elles ne seront pas satisfaites. Je crois qu'il y a des femmes qui ne savent pas que ça peut être autrement. Enfin, nous, on essaie de se plier au mieux, mais on est, je crois, assez mal perçu par certaines personnes, finalement mal informées, enfin, qui croient être bien informées, mais qui finalement n'ont pas tout compris. Et on vit quand même beaucoup d'agressivité de la part des parents, alors que bon, on essaie quand même.
Mais tout comme, je pense que les deux parties ont besoin d'être soutenues dans cette histoire du projet de naissance. Moi, en tant que consultante, j'apporte aux professionnels de santé des ressources scientifiques, juridiques. Bon, on parle du contrat de soins, de tout ce qui est l'aspect. Global du projet de naissance, même certains professionnels ne comprennent pas pourquoi les parents arrivent avec un projet de naissance. Donc j'ai deux articulations au niveau de mon travail, c'est d'une part au niveau des équipes médicales, des professionnels en général, mais aussi des parents, parce qu'il y a un point qui va être important pour des parents et puis pour tel autre couple ne sera pas du tout important. Donc effectivement, après au niveau des ressources, l'AFAR met en avant des ressources juridiques, scientifiques, moi j'apporte aussi des ressources politiques dans mes recherches. Par rapport aux parents, par rapport aux professionnels, il y a deux choses bien distinctes au niveau du travail. Il y a les professionnels, il faut les écouter aussi sur leur peur, sur le changement, le fait que ça soit écrit, ça fait peur. Et puis alors quand des parents demandent de signer ça, mon Dieu, alors là, ça veut dire que d'une part, on va se mettre en situation de conflit. Effectivement, il n'y a pas besoin de signer un projet de naissance. D'une part, parce que c'est un projet, il peut être modifié à tout moment et par les deux parties. Et d'autre part, il n'y a pas besoin de signer. À part un refus avéré d'acte médical. Parce que là, c'est important que les professionnels de santé en prennent conscience, mais vraiment, même ça, là, ça peut être écrit. Et certains professionnels le proposent d'ailleurs. Hein. Ça évite des problèmes justement après, et surtout sur le sujet épisiotomie. Bon, y a notamment une juriste qui a accouché à Nantes dans un milieu, une structure médicale, qui a dit, moi je suis juriste, vous me faites pas d'épisio, parce que alors là je vous mets un procès aux fesses. Et, là, elle a pas eu d'épisio, hein. Sincèrement. Voilà. Bon, après, effectivement, c'est pas grave de travailler comme ça, mais moi je connais des parents qui ont dit non, je ne veux pas d'épisio, ça a été ni écrit, ni signé, et la dame a eu une épisio, parce que tu comprends, tel professionnel fait l'épisio, c'est point bas. Alors que non, on peut refuser un acte médical. Donc, il y a toutes ces choses-là à brasser, c'est vraiment mieux.
Oui.
Est-ce
vraiment
aux parents de décider d'un acte médical?
Oui.
Il y a aussi un
Ah non, mais alors après,
oui, mais attention, ouais.
Moi je parle de quand il y en a trop, quand on ne demande jamais à la dame. Je défends ça aussi. On ne sait pas. Ah ben excuse-moi, mais 71% d'épisiotomie pour les primipares, quand même. Enfin, moi ça me fait bondir, quoi.
C'est pas sur la généralité, c'est sur un cas précis.
Oui, alors après on parle de cas précis. Non, je pense que, là, je présente ce cas de manière caricaturale, mais je pense qu'elle n'était pas non plus obtuse. À se dire que peut-être si dans son cas il y avait réellement un besoin avéré, elle n'était pas contre. Mais je veux dire que oui. Elle s'est mise dans la position, en position de force. Voilà.
Le consentement ou le non-consentement.
Vraiment mettre en avant qu'elle avait des ressources aussi. Mmh. Parce que nombre de parents se positionnent, mais ne sont pas entendus. Donc on est un peu dans un moment de flottement général. Ouais. Où ce n'est pas encore bien acquis, bien que les textes juridiques datent de 1998 à 2002. Au niveau de l'autonomie du patient par rapport aux actes médicaux. Donc ce moment de développement. Mais tout à fait, tout à fait. Oui. Tout à fait.
Mal formé, j'ai mal appris, donc c'est peut-être très bien faire les parties. Mais après, je me dis, est-ce que j'ai peut-être appris à faire trop
Mais au niveau de la culture, le problème, c'était justement que la culture est trop médicale. Enfin, je dis, au niveau de la culture, vous parliez de la culture, peut-être que justement, elle est trop médicale. On a trop médical. Voilà. En sensé, médical, croire, etc.
Pathologisé, oui.
Joël. Oui. C'est pas un retour. Pourquoi vous parlez de retour? Pourquoi vous parlez de retour?
Justement parce que
c'est pas un retour.
En France.
En France.
Ouais, mais c'est pas un retour.
Les années qu'on a fait passer là. Mm-hmm. Parce que moi, sur toute ma formation, c'est que maintenant, depuis quelques années, que j'entends des choses que je n'avais jamais entendues.
Attends, moi, je vais dire quelque chose. Hein.
Et au niveau historique, c'est pas un retour. Hein.
Oui.
C'est pas un retour.
Moi,
ça,
je. Dans la réalité.
Attends, après, Joël. Non.
Moi, je voulais juste.
Au niveau de la physiologie. Mais ils sont de garde aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là.
Oui, demain, oui. C'est ça, oui. C'est les femmes qui bougent.
De naissance peut en être la base, pas avec le papier, je veux ça, tu acceptes et pas ça, mais simplement, si je pars sur le projet de naissance, c'est l'écrit à quelque chose d'important pour beaucoup de gens, parce que ça veut dire qu'on réfléchit en couple, en famille, en disant qu'est-ce qui est important pour moi, comment est-ce que j'ai envie d'accoucher, je le pose par écrit. Je vais en discuter avec cette personne que j'aime bien, en qui j'ai confiance, et on va voir ensemble, et on va dire, attends, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah bah attends, moi ce truc-là, ça me fait peur. Attends, si t'accouches en quatre pattes, j'ai jamais fait ça de ma vie. Hop, on peut peut-être en discuter. Et donc ça, c'est complètement novateur. Il n'y a plus d'effet de pouvoir. Attends, excuse-moi, laisse-moi finir. Il n'y a plus d'effet... J'ai attendu mon temps, maintenant, tout, je l'ai fait. Il n'y a plus d'effet de pouvoir en disant la médecine a dit ça, la religion a dit ça, et puis la culture a dit ça. Il y a, j'ai envie de ça. J'ai mes envies, j'ai mes peurs, t'as tes envies, t'as tes peurs, on peut mettre ça dans le sac, on peut en parler. Et si on arrivait à ça, ça serait une naissance respectée pour l'accompagnant, pour celui qui donne naissance. Bon, c'est un petit peu un rêve, une utopie, et c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Alors là, on part sur quelque chose de novateur, c'est pas un retour en arrière. Les femmes, il faut peut-être remonter à l'époque où on était grands singes debout pour trouver une naissance où les femmes faisaient ce qu'elles voulaient. L'humanité a créé des religions, a créé des mythes, a créé des rituels. La femme, on a toujours eu peur qu'elle accouche pas parce que la survie de l'espèce en dépend. Et donc, on a toujours inventé des choses depuis la nuit des temps. Hein, quand il y a toujours eu des choses qui ont été inventées pour la faire accoucher plus vite, parce que finalement l'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme mâle, il attend la sortie de sa progéniture qui va assurer la chasse, qui va assurer les récoltes, qui va assurer... Donc, on est dans une dynamique, on peut inventer quelque chose de tout à fait nouveau. C'est réellement pas un retour en arrière. Peut-être que la physiologie, elle a jamais été observée, elle a jamais été décrite, elle a, en tout cas, elle a peut-être été observée. Mais je pense que chaque fois qu'il y a un observateur, c'est de l'observation, et que peut-être que les gens y prennent position en fonction, si on veut être très puriste. Et donc, on connaît rien de la physiologie fondamentale de la naissance. Donc, parlons pas de physiologie, de retour à la physiologie, de retour à la liberté, de retour à machin. Il n'y a jamais de liberté. La physiologie, on ne la connaît pas trop. Donnons-nous peut-être les moyens d'aller vers autre chose. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Est-ce que ça peut s'inscrire dans notre société de consommation? J'en sais rien.
Localement, bien sûr.
Ça se pratique localement, je veux dire, mais... Absolument. Mais, oui, mais si tu veux l'accueil des parents qui viennent demander, tout à l'heure, elle disait, moi, comment je vais faire un accouchement à quatre pattes et comment je vais faire un accouchement sur le côté, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent et qui disent, faites. Et là, on en est dans l'histoire de la position des uns par rapport aux autres. La nouveauté, c'est que la position change. Et pour l'instant, elle n'a jamais changé. Et dire, il faut changer de position, mettez-vous accroupi, madame, mettez-vous sur le côté, madame, la position est toujours la même, il y a toujours quelqu'un qui sait, quelqu'un qui ne sait pas.
Il y avait une femme de notre association qui est allée dans une maternité il y a un an et demi à peu près, quoi, parce qu'elle avait rompu la poche osseuse, donc elle ne pouvait pas accoucher à domicile, donc elle allait à cette maternité. Puis une très jeune sage-femme la reçoit, lui dit, bon ben madame, allongez-vous donc sur la table, etc. Elle dit, non, je ne m'allonge pas. Ah bon, ça pose problème. Oui, puis elle dit, de toute façon, moi... C'est mon troisième enfant et d'habitude, je n'accouche pas sur le dos, j'accouche plutôt sur le côté. Oh, vous auriez dû venir cet après-midi parce que ma collègue avait fait le stage avec Bernadette de Gasquet. Moi je ne peux pas vous accoucher sur le côté, quoi. Elle a dit, mais vous inquiétez pas, madame, c'est pas vous qui m'accouchez, c'est moi qui accouche. Donc, vous voyez, donc elle avait quand même été préparée à ça. Donc, ça montrait quand même un changement de mentalité, quoi. Tant que c'est ça la réappropriation aussi.
Ouais. Il y a des demandes, est-ce que vous avez un projet, et pourquoi dans d'autres points de vue,
c'est très...
Parce que la prise de conscience, là,
ouais. Ça dépend des accidents qu'il y a eu aussi. Il suffit qu'il y ait eu à un moment une mort de bébé ou quelque chose de très dur vécu avec des parents, et souvent toute la structure va se raidir. Parce que là, parapluie. Oui, mais. Oui, d'accord, mais ça n'arrive pas au même endroit tout le temps, disons dans des petites structures. Maintenant, il y a peut-être un bébé qui meurt tous les 10 ans. Imaginons, par exemple, on peut calculer ça. Mais voilà, et au moment où il se passe quelque chose, et ben, pendant un certain temps, il y aura un raidissement en fait, qui va s'observer. Hein. Ça, on nous l'a tous souvent dit.
Et puis pour répondre à ta question, Renaud, concernant le projet de naissance, il y a des parents qui font un projet de naissance, pas seulement sur leur position d'accouchement, mais aussi sur les soins faits au bébé et tout ça. Et ça concerne les gens qui souhaitent une péridurale. Je veux dire, tu vois, là, ça regroupe absolument tout le monde, pas seulement... c'est pas que pour la femme, c'est aussi un projet pour les femmes.
Moi, elle me dit
que
je suis un extraterrestre,
oui, non,
c'est
pas ça.
Mmh. Oui, c'est ça.
Les patients qui demandent qu'on n'a pas leur enfant, quoi, et qu'on les mette dans le avec le papa, la maman, avant qu'on les mette dans le dos. Et ils ne savent même pas qu'on peut avoir une idée que ça puisse être.
Alors pourquoi les sages-femmes dans la formation de la médecine, pourquoi l'âge avec les médecins qui s'approchent?
Je vais dire une chose quand même, que dans le mailing qu'on a fait sur Bordeaux par exemple, on a fait des mailings en priorité sur les sages-femmes, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire des mailings sur toutes les unités obstétricales, etc. Celles qui sont dans sur les pages jaunes. Voilà. Vous avez été contacté par les pages jaunes. Ouais. Voilà, oui, bah, oui, c'est sûr. Mais ça, c'est un bon. Oui. Oui, c'est ça. Bon. Oui. Oui.
Valérie, tu sais, je pense aussi qu'il y a une histoire de d'où on a été formé, de quels horizons on vient. Parce que moi, une fois, j'ai vu un chef de service de maternité, alors que je lui demandais une échographie avant le toucher vaginal. Ça s'est très très mal passé, et la réponse a été, de toute façon, c'est moi le chef. Je veux dire que quand on entend ça, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Je ne sais pas, de toute façon, je n'espère pas que cette personne s'ouvre à quelque chose d'un petit poil différent un jour. Bon, ça aussi, ça explique que dans certains lieux, quand ces personnes-là sont chefs d'un service, ça tire vers le bas plutôt que vers le haut. Alors après, t'as beau passer de l'info. Mais bon, c'est un exemple. Hein. Aussi comprendre qu'est-ce que ces femmes attendent des professionnels, ça c'est des questions essentielles à creuser aussi. Beaucoup de femmes qui sont enceintes de leur premier enfant attendent une aide importante et parfois complètement à côté de la plaque. Et puis c'est là peut-être qu'elles vont se rendre compte qu'accoucher, bah oui, c'est elles. Ça on va pas le faire à leur place et que ben.
C'est
un global.
Je rajouterai par là-dessus mes observations puisque j'ai la chance d'accompagner des naissances à la maison. C'est que la sécurité, ça c'est observé, je veux dire, au niveau hormonal, par exemple, il y a des travaux de Michel Audan sur l'hormonologie du travail et de l'accouchement, et chez animaux, on sait que quelque chose qui favorise une naissance eutossique, c'est que la femelle, je vais parler de femelle, même étant des animaux dedans, se sent en sécurité. Bon, les conditions de se sentir en sécurité, ça n'a rien à voir avec la sécurité technique, c'est se sentir en sécurité. Donc il y a des femmes qui ont besoin d'aller à l'hôpital et de s'en remettre entre les mains des médecins qu'elles ont décidé parce qu'elles se sentent en sécurité. Là, ces femmes-là, elles accoucheront très bien à l'hôpital parce qu'elles y vont pour se sentir en sécurité, c'est l'endroit. Il y en a d'autres qui se sentent en sécurité dans leur lit, chez elles, ou dans leur salon, ou dans la salle de jeu, ou je ne sais où, c'est l'endroit où elles se sentent en sécurité. Bon, ça, c'est la démarche globale. Mais moi, ce que j'observe à la maison, c'est que les mamans, elles auront préparé leurs petites bougies, leurs petits oursans, leurs petits machins, leur glace préférée, enfin bon, plein de choses, en disant, avec ça, je vais me sentir bien, ça va bien. Et puis, un jour, une maman, elle était dans son lit, tout bien préparé, son mari, il avait tout bien tendu le lit. Ça, c'est pour reprendre que l'accouchement à la maison, ça doit rester un modèle. Et tout d'un coup, elle se lève de son lit. Alors, je vous mime, parce que je ne sais pas faire autrement. Et alors, nous, on la suit forcément, je suis sage-femme accompagnante, donc je suis. Son âme, il suit. Puis elle dit, je vais faire pipi. Ok, on se trouve, c'est normal d'aller faire dans les toilettes, tout. On la suit. Elle avait des WC qui étaient longs, vous savez, les WC tout longs où il y a les toilettes tout au fond, là. Voilà. Et puis elle avance tout au fond, elle se tourne, elle s'accroupit entre les toilettes et puis le mur. Et nous, on était tout cons, là, à la porte. Voilà. Est-ce que...
cachée, coincée entre le mur et les toilettes? Jamais. Hein? Mais tout d'un coup, elle s'est sentie en sécurité là. Pourquoi? Parce que peut-être tout d'un coup, elle était hors de portée de nos mains. Qui sait? Hein? Et voilà, donc... Après, c'est pour ça que le projet de naissance écrit est comme mode d'emploi.
C'est un tremplin.
Non, c'est un outil, c'est quelque chose sur lequel on peut discuter. Hein, parce que la femme, elle a pu voir que c'était super bien d'accoucher sur un siège hollandais. Là, j'ai eu une maman aussi comme ça une fois. Elle avait accouché dans plein de pays du monde, et puis en particulier en Amérique du Sud, où on l'avait attachée, enfin bon, plein de trucs pas possibles. Et puis, elle me dit, moi, je rêve d'accoucher sur le côté. Elle arrive pas très loin du moment où visiblement elle allait accoucher. Je lui dis, sur le côté, ça te dit? Elle a même pas le temps de se coucher, elle se relève, elle dit, non, pas du tout. Finalement, elle a accouché à moitié à genoux, dans les bras de son homme, enfin bon. Ça non plus, c'était pas du tout ce qu'elle avait rêvé. Si elle l'avait marqué sur un papier, on lui aurait dit, attends, t'as marqué sur le papier que tu dois... Ça le fait pas. Donc, revenir à ça, ce qui est important, c'est que les gens se sentent en sécurité. Il y en a qui se sentent en sécurité à l'hôpital, il y en a qui se sentent en sécurité chez eux, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est aussi un critère de sécurité pour nous, et je crois que moi j'ai drôlement appris des femmes aussi de me dire que si elles se sentaient en sécurité, moi je pouvais me sentir en sécurité.
Voilà, et ça c'est vrai que quand je leur dis aussi, dites ce que vous voulez, parce que pour les sages-femmes aussi, ça les aide quoi, de pouvoir faire, et c'est vrai que des fois elles me regardent et on sent bien qu'elles ne vont pas forcément oser, quoi, parce que c'est vrai que pour une sage-femme aussi, s'entendre dire moi j'ai besoin de ça, c'est tellement plus facile de le donner que d'essayer de deviner et d'être à côté de la plaque trois fois sur quatre.
Elle ne va peut-être pas oser parce qu'elle est dans un moment de réflexion, elle est très cérébrale, mais au moment où elle accouche, si elle est avec ses hormones... La pudeur qui est là, aller au fond du couloir près des toilettes, si on lui avait dit, elle aurait dit non, mais au moment où elle accouche, à ce moment-là précis, comme celles qui se mettent à quatre pattes, il y a des femmes hyper pudiques, si on leur avait dit à l'avance, tu sais, tu vas accoucher à quatre pattes, jamais, sur le moment, c'est ça qu'il fallait pile poil, et voilà. On n'est plus du tout dans la réflexion à ce moment-là.
Et les mamans qui viennent pour la première fois l'année dernière, j'étais super contente parce que j'ai eu plus de la moitié des mamans qui venaient, j'ai une cinquantaine d'accouchements par an, plus de la moitié l'année dernière étaient des mamans, c'est leur premier bébé. Et quelque part, elles sont vierges. Ça se passe bien les premiers bébés à la maison parce qu'il n'y a pas d'idée préconçue. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors que... Mais bon, je dis pas que c'est l'idéal, hein, mais je dis que pour certaines femmes, c'est un moyen de se sentir en liberté, et puis après tout, pourquoi pas.
Ça contraint, Bernard. Bon, on peut aussi clôturer là. Hein.
Oui. Tu vas prendre le train pour t'arriver. J'ai un peu.
Par contre, on ne peut pas te faire courir.
Non, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut voir la gare. Merci beaucoup.
Merci de votre venue.
Est-ce que quelqu'un parmi vous passe devant la gare en voiture? J'ai vu après l'urgence.
Laquelle gare?
La gare Saint-Jean, pour de Saint-Jean. Non. Vous pouvez me déposer à la gare?
Alors ça, il faut le rendre. Parce que j'ai déjà rendu la vidéo. Attends.
Tu peux me faire attaquer des choses?